Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Toutes les dénominations chrétiennes, et elles sont très nombreuses, se distinguent par différents points de doctrine. Chacune d'elles interprète les Écritures à sa façon. Toutes ces dénominations affirment que leur enseignement est biblique. La Bible est le livre le plus vendu et le plus traduit dans le monde. Mais au lieu d'y trouver la réponse aux questions que sa lecture suscite, trop de gens en tordent le sens afin de le rendre compatible à leurs opinions. Pourquoi tant de religions différentes alors que Jésus a affirmé « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Consolateur est venu, et que constatons-nous? Une énorme panoplie de dénominations chrétiennes aux croyances divergentes. Ne pensez-vous pas que si elles étaient toutes conduites dans la vérité, si elles étaient toutes guidées par l'Esprit de vérité, le Consolateur, alors elles devraient toutes parler un même langage, elles devraient toutes enseigner et pratiquer les mêmes doctrines. Ce n'est malheureusement pas le cas. Pourtant, le Christ a ajouté « La vérité vous affranchira ». Un affranchi est une personne libérée de son esclavage. La vérité doit nous affranchir de l'esclavage du péché. Elle doit nous permettre de nous en éloigner. Les nombreuses dénominations chrétiennes éloignent-elles leurs adeptes du péché ou, peut-être sans le savoir, les mènent-elles à commettre le péché? Combien d'entre elles portent le nom du Christ sans même rechercher sa volonté qui n'intéresse d'ailleurs que trop peu de gens? La plupart des chrétiens recherchent un Dieu qui ne leur impose aucune pratique dérangeante. Ils limitent leur obéissance à leur confort personnel. On veut un Dieu sur mesure, compatible à notre zone de confort. On se fabrique un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, et cela suffit pour transgresser le premier commandement. Dans cette quête d'un Dieu sur mesure, on s'accroche à quelques passages bibliques, on les retire de leur contexte, on les mémorise. Quel étrange christianisme! Croyez-vous qu'il ait la moindre valeur aux yeux de Dieu? Par exemple, on accepte cette petite phrase bien connue, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais on ne s'intéresse pas à ce que Pierre dit, en s'adressant à la foule assemblée devant lui et qui lui demande ce qu'il faut faire. Sa réponse est cependant précise, « Repentez-vous, convertissez-vous. » Se repentir, c'est admettre devant Dieu que l'on a péché, que l'on a transgressé sa loi. Se convertir, c'est adopter un mode de vie conforme aux commandements et aux lois de Dieu. Le Christ a porté nos péchés. Il est mort pour payer l'amende dont nous devions nous acquitter pour nos transgressions. Malgré cela, la plupart de ceux qui pensent être chrétiens continuent à vivre dans le péché, comme si le Christ était mort pour rien. Ouvrez les yeux. Réfléchissez un peu, et vous verrez qu'il y a bien un paradoxe entre le nom que ces gens adoptent, chrétiens, disciples du Christ, et leur comportement. La plupart ne se soucient de Dieu qu'en cas de besoin, de maladie, mais en dehors de cela, ils veulent vivre comme ils l'entendent, oubliant que les promesses divines sont toujours conditionnelles. En voici deux exemples. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Après ces paroles, vous trouverez dans le 28e chapitre du Deutéronome une liste de bénédictions, mais aussi une liste de malédictions encourues en cas de mauvais choix. des lois ont été données pour que l'homme puisse vivre heureux et conserver la santé. On les ignore, on les transgresse. Ensuite, lorsque l'on est touché par une maladie grave, on se tourne vers Dieu pour demander sa guérison. Est-ce logique? Je compte d'ailleurs vous parler des lois de la santé d'ici peu, car c'est un sujet important qui intéresse beaucoup de personnes. Voici une autre promesse conditionnelle. L'apôtre Jean écrit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Le message de Jean est clair. Si nous transgressons les commandements, il est inutile de nous adresser à Dieu, il n'écoutera pas. Prenez la peine de déterminer si votre christianisme s'appuie sur des idées personnelles ou simplement sur la parole de Dieu dans son entièreté. Prenons le tout premier verset de la Bible, dans lequel Dieu se présente comme un créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De son côté, Paul a ajouté, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Malgré cela, on parle de la matière originale, du Big Bang, d'un tas de suppositions. On cherche à écarter Dieu de sa création. Mais on n'arrive pas à prouver ce qu'on avance. Combien de dénominations admettent que, si l'univers a été rempli par tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, c'est tout simplement parce que Dieu a parlé. Il a commandé, il a ordonné et, sur son ordre, les planètes, les soleils, les galaxies naquirent par un acte créatif du Créateur suprême et non par une évolution qui reste théorique, sans preuve. Pourtant, n'y a-t-il pas dans cet immense univers des étoiles qui meurent et qui naissent? C'est une question qui m'a été assez souvent posée. La création des cieux et de la terre, de cet univers physique décrit dans le premier verset de la Bible, a été terminée il y a de cela des millions, si pas des milliards d'années. Que des étoiles naissent ou disparaissent, ce n'est qu'un processus continu de la matière. C'est un cycle, mais l'origine de la matière elle-même et de l'énergie est un événement qui se passa bien avant la mort de certaines étoiles et la naissance de nouvelles. Si on refuse de croire en un Dieu créateur, c'est parce que l'on veut un Dieu sur mesure, un Dieu conforme à ce que l'on croit. Le tout premier verset de la Bible suffit déjà à déterminer si ces diverses dénominations sont conduites dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Un autre élément qui vous aidera dans la recherche de la vérité est le second verset de la Bible. Lui non plus n'est pas pris en considération par la plupart des chrétiens, qui font ainsi de la Bible une sorte de légende destinée aux esprits simples. Ce verset dit « La terre était informée vide ». Pensez-vous que ce Dieu, qui n'est pas un Dieu de désordre, ait voulu créer quelque chose qui soit informe et vide, c'est-à-dire, selon l'hébreu original, dans un état de tohu-bohu, dans le désordre, la confusion, le chaos? Croyez-vous que le Tout-Puissant n'est pas capable de créer quelque chose de très beau et d'harmonieux sans passer par le désordre et la confusion? La Bible répond à cette question. Nous y lisons que, lorsque Dieu fonda la terre, les anges qui assistaient à cette création éclatèrent en chants d'allégresse. Ils poussèrent des cris de joie. Pousseriez-vous des cris de joie devant ce qui est chaos, désordre, confusion? La Bible, qui est un livre d'inspiration divine et qui a été écrite pour notre instruction, confirme que Dieu s'est vu obligé de renouveler la surface de la terre. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue informe et vide. C'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer, et si vous voulez le texte de cette émission, il vous suffit tout simplement de nous écrire. Si votre Église a bien reçu l'Esprit de vérité, elle doit, selon la promesse de notre Sauveur, vous conduire dans toute la vérité. Dans le cas contraire, elle ne l'a pas reçu. L'Éternel Dieu aurait-il pu faire des promesses à la légère? Aurait-il raconté n'importe quoi? S'il l'a présenté comme étant réel des faits imaginaires, quelle crédibilité pouvons-nous accorder à sa parole, à ses promesses, à son salut? La vérité se trouve depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière. C'est une entité précise dont on ne peut exclure la moindre partie. C'est à vous de comparer vos croyances avec la parole de Dieu. Inspirez-vous d'ailleurs de l'exemple des Juifs de Bérée. En parlant d'eux, la Bible nous dit ceci. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si vous suiviez leur exemple, vous seriez probablement surpris de constater que la plupart des doctrines considérées comme vérité ne sont que mensonges, car elles sont la continuation d'anciennes croyances païennes. Rien de plus. Si vos croyances sont en contradiction avec la Bible, vous pouvez en conclure que vous n'êtes pas conduit dans toute la vérité. Souvenez-vous que la parole de Dieu ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle, et elle ne peut se contredire, car dans ce cas, elle s'anéantirait elle-même. Or, Jésus a dit, « L'Écriture ne peut être anéantie. » Pour conclure, je vous rappelle ce que Pierre a affirmé. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, qui s'oppose à sa parole, qui vit dans le péché, qui transgresse la loi, qui enseigne que le repos hebdomadaire est fixé au premier jour de la semaine, au lieu du septième jour fixé par Dieu, qui rejette les fêtes annuelles de l'Éternel pour les remplacer par des fêtes d'origine païenne, n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Il n'est donc pas disciple du Christ.